Mesdames, Messieurs, bonjour à tous.
Voilà, je propose d'avancer dans notre programme et nous sommes maintenant parvenus à un moment décisif de l'histoire espagnole. Un profond renouvellement politique et social s'opère à travers un drame, c'est le drame de la guerre de libération nationale, et justement à ce propos, Goya observera ces événements, dont il a été le contemporain, avec une cruelle lucidité. Donc c'est une particularité de ce peintre, c'est un peintre sans concession, sans égard pour ses admirateurs, ses spectateurs, ceux qui regardent ses tableaux. Il est effectivement lucide, et parfois cette lucidité est d'une grande cruauté. Goya, en même temps, est né dans un petit village aragonais, d'une famille plutôt modeste, voire très modeste, et il a connu, dans sa jeunesse, des moments difficiles. Et donc, du même coup, ses tentatives pour percer, notamment à l'occasion des concours de l'Académie de San Fernando à Madrid. Alors il y a deux tentatives en 1763 et en 1766. Ces tentatives sont des échecs. Sont des échecs cuisants et donc bien sûr pour Goya, il y a un ressentiment qui est tout à fait terrible et qu'il va comme cela traîner pendant plusieurs années jusqu'au moment où, en 1775, grâce à la protection de son beau-frère, mais il a fallu passer effectivement par son beau-frère qui est Francisco Bayeux, Goya est engagé comme cartonnier de la Manufacture Royale de Tapisserie de Sainte-Barbe à Madrid, Santa Barbara. La référence est très très célèbre, et alors à ce propos, la référence, c'est la référence à ce tableau. Quand Velázquez peint le fameux tableau que l'on appelle communément les fileuses, Velázquez donne une image de la célèbre manufacture de Santa Barbara à Madrid. Alors effectivement, le tableau est très très célèbre, c'est une occasion de plus d'évoquer cet immense peintre qu'est Velázquez, peintre du XVIIe siècle, dont Goya fait un modèle, bien sûr que ce soit ou les Ménines ou bien les Fileuses, pour Goya, Velázquez est une référence. Et ça se comprend quand on connaît la qualité technique de la peinture de Velázquez. Donc là, nous sommes dans l'atelier des Fileuses, et cet atelier, je le redis, c'est Santa Barbara. À l'arrière-plan sont présentées des tapisseries. Donc il y a effectivement au premier plan donc l'arrière-boutique, l'atelier des Fileuses, l'atelier des Tisserandes, celle qui réalise à partir des cartons des tapisseries tout à fait superbes, tandis qu'à l'arrière-plan, c'est la boutique qu'il faut imaginer de Santa Barbara, où sont présentées des tapisseries qu'admirent des dames de la cour. Mais il faut être quand même attentif, parce que parmi ces figures, il y a une figure dont on ne sait pas trop finalement si elle fait partie des dames de la cour qui admirent les tapisseries qui sont accrochées dans la boutique de Santa Barbara, elle est inscrite dans l'image de la tapisserie elle-même. Il y a une tapisserie accrochée au mur, les figures ou quelques figures se détachent, et on y voit Minerve à gauche, qui est reconnaissable parce qu'elle est armée, elle a un casque, elle a une armure, elle lève son bras bien sûr, et cette patronne des tisserandes, Minerve, Athéna si vous voulez, est confrontée ici à sa rivale c'est Arachné. Et c'est vrai que le peintre est extrêmement subtil, très ingénieux. On ne sait pas si ces deux figures, donc Minerve qui est ici, qui lève son bras, et Arachné qui se tient en face, appartiennent au décor de la tapisserie. Ici, la tapisserie est en fait une illustration de la légende qui a été racontée diversement, et notamment par Ovide dans ses Métamorphoses, ou si ce sont des dames qui se mêlent aux dames de la cour. Enfin bon, donc en tout cas, la référence est célèbre, et c'est maintenant au tour de Goya de créer des cartons de tapisserie pour justement la manufacture de Sainte-Barbe. Ces cartons sont extrêmement célèbres. Ces cartons sont de véritables tableaux. Un cartonnier a priori fait une œuvre, un carton qui est une peinture à l'huile sur toile, ou quand on se projette loin dans le passé, dans ce cas c'est une peinture sur bois. Mais enfin, bon, ce sont des tableaux, effectivement. Et donc, des tableaux qui sont peints dans la tradition à la fois française et flamande. Nous sommes plutôt au début de la carrière de Goya, ceci va changer considérablement. Domine les scènes de genre. Et effectivement, on sait que dans la peinture néerlandaise du XVIIe siècle, du siècle d'or, il y a un genre que l'on appelle la scène de genre, qui prend beaucoup, beaucoup d'importance. Et c'est là que l'artiste a été chercher sa référence. Mais pas seulement, parce qu'en effet, quand on évoque la tradition française, c'est la tradition peut-être un petit peu plus tardive, après le siècle d'or hollandais, c'est la référence au thème galant. Donc effectivement, il va laisser de séduisants croquis de la vie madrilène, de séduisants dans le sens où on retrouve ce thème galant qui avait été traité au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, par Watteau par exemple, et là vous avez les deux grandes références que l'artiste récupère, la tradition néerlandaise et la tradition française, c'est-à-dire les fêtes galantes. Et dans les fêtes galantes, il y a bien sûr toujours le thème de la conversation galante ou de la promenade galante dans un parc ou que sais-je. Et c'est vrai qu'un tableau comme celui-ci pourrait très bien correspondre à la peinture de Fragonard. Après Watteau au XVIIIe siècle, en France, c'est Fragonard qui est le meilleur suiveur de ce genre, qui est d'ailleurs un genre académique. Il était entré dans l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris, le genre de la fête galante inventé par Watteau, développé par Fragonard, repris ici par Goya, en y mêlant bien sûr des allusions à la peinture flamande. Donc l'ombrelle, mais encore le jeu de Colin Maillard. Peut-être d'ailleurs ce tableau qui fait le mieux référence aux fêtes galantes, parce que le tableau traduit bien sûr le bonheur, la joie, fait référence pourquoi pas à l'amour aussi. Bon, c'est un jeu qui est galant, et fait référence à ce fameux tableau de Watteau qui a été copié plusieurs fois, repris à différentes façons. C'est l'embarquement à Cythère ou l'embarquement de Cythère, c'est pas tout à fait pareil, et on ne s'est pas tranché d'ailleurs à propos du tableau de Watteau, mais enfin, donc effectivement, référence à la grande peinture galante des fêtes galantes françaises. Sur le plan de la technique, c'est pareil, donc c'est-à-dire effectivement que le peintre est attaché à une technique qui est libre, qui va encore se libérer plus tard dans le cours de sa carrière, une technique libre, c'est-à-dire une technique qui fait référence au style baroque. Donc les grands peintres baroques, tels par exemple Fragonard, avaient effectivement au XVIIIe siècle une touche qui était très tout à fait extraordinaire. Hein. Donc Fragonard par exemple recherchait à tout prix le fa presto, le fameux fa presto des Italiens, le fait vite si vous voulez des Italiens, et Goya se mesure justement à ce style baroque européen, mais très bien représenté par Fragonard en France au XVIIIe siècle. Donc voilà, ça ce sont les références je crois, en voici d'autres. Le printemps, qu'on appelle aussi las floreras, c'est-à-dire donc les fleuristes, ou alors les vendanges, que vous avez à droite. Et donc c'est tout un cycle sur les saisons qui se met en place. Évidemment, on appréciera la luminosité. On appréciera donc la clarté de la composition, c'est-à-dire que le peintre est soucieux d'équilibre, il fait en sorte d'aérer ces groupes de personnages, de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre le paysage et les personnages, qu'ils situent sur un deuxième plan, ne sont pas collés au premier plan, et ainsi ça permet à l'œil du spectateur de s'enfoncer progressivement et doucement dans la composition. Enfin, on apprécie surtout effectivement l'aspect donc joyeux, donc l'état de bonheur que traduisent ces personnages qu'il peint, et encore donc la luminosité, la clarté de la composition. Enfin, c'est tout à fait typique de la peinture du XVIIIe siècle à tendance baroque. Hein. On pourrait le comparer par exemple au grand style Louis XV. Donc la peinture du style Louis XV est représentée par justement un Fragonard, hein, ou un Boucher. Le Boucher, vous pouvez aussi bien sûr faire la référence au grand peintre français du XVIIIe siècle qui est Boucher. Et puis donc Ça change. Ça change parce qu'en effet, l'artiste a reçu des commandes un peu particulières, ou plutôt dans des contextes particuliers. C'est-à-dire que tous les cartons ne sont pas de la même veine. Et puis, vous l'avez remarqué, tous les cartons ne sont pas de la même période. Hein, c'est au cours d'une très longue période qu'il est resté cartonnier. Et en fonction du contexte, l'inspiration de l'artiste a pu changer. Et là, il faut comprendre quelque chose, qu'en homme avisé, Goya épouse maintenant les idées politiques et sociales du roi Charles III. Il faut insister, nous sommes sous le règne de Charles III. Son successeur ne sera pas du tout attaché aux lumières du XVIIIe siècle, tandis que Charles III l'était, et ses idées politiques et sociales sont récupérées et illustrées finalement par Goya. Donc, il est inscrit, Goya, dans un entourage éclairé, ce milieu rêvé justement de régénérer l'Espagne par des réformes placées sous le signe de la raison et des lumières, c'est-à-dire l'inspiration bien sûr française, et le lyrisme précédent. Parce qu'en effet, quand on parle d'un style baroque, ou d'une tendance qui est baroque, ou rococo même, quand on évoque le style Louis XV, c'est lyrique. Bon. Et le lyrisme précédent du peintre fait place maintenant à des préoccupations qui sont réalistes, et on a même dit populiste, effectivement ça surprend beaucoup, quoi qu'il en soit, c'est un aspect de Goya qu'il faut prendre en considération, car en effet, pour lui, la misère humaine est insupportable, et il n'y a pas de raison que le peintre ne dénonce pas cette misère. Hein. Et donc il a effectivement ici eu cette audace finalement de relever cette misère à travers des cartons qui pourtant étaient destinés à des châteaux de Charles III. Je vais préciser ce point dans un instant. Mais avant cela, donc deux compositions effectivement qui sont tout à fait étonnantes, qui tranchent complètement avec ce que l'on a vu précédemment. Pourtant, ce sont des cartons de tapisserie qui étaient ensuite soumis ou donnés donc à la manufacture de Sainte-Barbe, entre autres. Sur le tableau à gauche, on est tout à fait saisi par la pertinence de Goya qui va représenter ces figures frigorifiées, donc saisies par le froid, en fait, ou carrément donc déjà sur le point d'être givré, comme les arbres que l'on voit à l'arrière-plan. C'est aussi l'occasion pour Goya de s'essayer à un paysage enneigé, et remarquer que, comme plus tard dans la peinture impressionniste, je pense à la Pie de Monet, qui est un tableau enneigé, il y a des teintes de bleu qui se mêlent aux ombres ou aux arbres qui sont très caractéristiques de ces paysages enneigés. Et à droite, par contre, le maçon blessé, est une scène qui est tout à fait étonnante, hein, qui annonce bien sûr un autre Goya qui va très largement l'emporter sur ce premier Goya qui était lyrique, qui était très attaché à un état de bonheur, donc à travers les cartons précédents. Donc ici, effectivement, on est toujours aussi surpris de la façon dont Goya va traduire les expressions de ces personnages, des décors aussi des personnages, et puis l'arrière-plan. Vous voyez comment il procède. Goya est très soucieux de placer ses personnages dans un paysage, des paysages qui sont très contrastés, en tout cas par rapport au précédent. Donc paysage enneigé d'un côté, puis alors à droite, un paysage qui est marqué par des horizontales, des verticales, des diagonales, qui s'entrecroisent. Donc quelque chose qui visuellement n'est jamais effectivement très agréable, et qui peut-être suggérer finalement la prison sociale finalement dans laquelle se trouvent ces maçons qui, une fois blessés, n'ont plus de possibilité bien sûr de vivre correctement. Et donc l'audace de Goya, ça a été de relever dans ce contexte, hein, qui est le contexte de la cour du roi Charles III, mais une cour éclairée, une cour qui est sous le signe de la raison et des lumières, mais il fallait encore un peintre pour relever tout cela, c'est-à-dire faire des cartons qui étaient destinés aux tapisseries de la salle à manger du palais du Pardo. Le palais du Pardo. Donc imaginez quand même que les tapisseries existent véritablement et qu'elles décorent la salle à manger du palais du Pardo. Bon appétit. Il faut avoir de l'appétit quand même pour manger avec des scènes comme celle-ci. Alors le Pardo, le voilà, le palais du Pardo. Le palais du Pardo, c'est un palais qui est situé à 6 km de Madrid, hein, parce que je n'ai pas bien sûr perdu de vue le sujet de cette conférence qui est donc Goya du temps de Madrid du temps de Goya. Donc il faut effectivement s'attacher à des références madrilènes sur le plan de l'architecture et même sur le plan de l'urbanisme. Donc là vous avez un palais qui est très très célèbre, le palais du Pardo, il ne faut pas confondre bien sûr avec le Prado ou le Bardo. Le Bardo c'est donc en Tunisie. Donc là c'est le palais du Pardo qui est situé à 6 km de Madrid. À l'origine il s'agissait d'un petit château qui avait été construit par le roi Henri IV de Castille, mais Charles Quint et Philippe II d'Espagne, son successeur, en font un grand palais dont la construction s'achève en 1568. Et il faut bien sûr maintenant préciser que le Pardo a été la résidence d'hiver de Charles III. Charles III qui est commandé par le biais bien sûr de ses responsables à Goya, des cartons de tapisserie que vous venez de voir à l'instant, notamment l'hiver et le maçon blessé. Donc ça convenait parfaitement à la destination, la fonction du palais, résidence d'hiver de Charles III. Et donc Charles III a agrandi ce palais, il reste pratiquement plus rien du XVIe siècle. Il a embelli, et ses successeurs ont fait de même, ils ont continué l'embellissement du château du Pardo. Hein. Donc voilà, pour remettre un petit peu dans le contexte, les deux cartons de tapisserie, ou les tapisseries tout court, dont vous avez vu les cartons précédemment de Goya. Voilà, alors donc il fait partie de Goya, donc d'une équipe qui est chargée du décor finalement de ce château, repris par Charles III. En 1786, Goya est nommé peintre du roi. C'est toujours le même. 3 ans plus tard, à l'avènement de Charles IV, il devient pintor des camaras, c'est-à-dire le peintre de la chambre du roi. Il y a une différence effectivement entre peintre du roi et peintre de la chambre du roi. Peintre de la chambre du roi, ce qui était beaucoup plus tôt au XVIIe siècle Velázquez, ça permet au peintre de vivre à la cour, d'avoir finalement son appartement à la cour ou au palais ou au château du roi. Et donc il devient effectivement un membre à part entière de la cour, qui a son atelier donc au château ou à la cour. C'est une différence tout à fait considérable. Donc c'est un proche hein, du roi, il devient un proche du roi Charles IV. Et surtout, ce qui fait la renommée de Goya, à partir du moment où il est peintre de la chambre du roi, ce qui fait sa renommée, ce sont ses portraits. Il devient donc le portraitiste à la mode. Il est vrai que, quand on est peintre de la chambre du roi, la première fonction, la première chose que l'on fait, ce sont des portraits. On fait des portraits des gens de la cour. Et il faut voir maintenant que chez Goya se pressent les hommes importants et les dames du monde, et on conserve comme ça de très très beaux portraits. Celui-ci est ancien d'ailleurs, il correspond à une époque juste antérieure à l'avènement de Charles IV. Mais il est déjà peintre du roi à cette époque, il deviendra ensuite peintre de la chambre du roi. Mais le tableau est célèbre, il est resté très très célèbre, le comte de Floridablanca, qui est tout à fait caractéristique du grand portrait de cour décoratif. C'est-à-dire que là encore, comme pour les premiers cartons de tapisserie, ceux qui étaient lyriques, l'hiver et le maçon blessé sont des cartons vraiment à part. Hein. Mais effectivement, là encore, Goya suit strictement la tradition, donc le protocole finalement, parce qu'il y a un protocole à respecter quand on aborde le portrait de ces gens illustres. Et là, par exemple, oui, vous avez un grand portrait de cour décoratif, mais le comte en question de Floridablanca représente parfaitement l'esprit des Lumières. Hein. Nous sommes encore sous le règne de Charles III, la cour éclairée de Charles III. Voici un des membres éclairés donc, de la cour de Charles III. Donc, esprit des Lumières, et effectivement, c'est donc Goya le traduit parfaitement si on s'approche, par exemple, de la composition. Donc, le comte a un souci, c'est de montrer qu'il est cultivé, qu'il est un homme des Lumières, qu'il est brillant, si vous voulez, et vous remarquerez que autour de lui, tout un tas d'attributs se rapportent à des sciences, comme la géographie, par exemple, l'astronomie, la mesure du temps aussi, ou d'autres choses encore qui peuvent évoquer les centres d'intérêt du comte en question de Floridablanca, qui est d'ailleurs attaché ici, ou relié en quelque sorte, au au roi Charles III, dont il est un membre de la cour. Vous voyez au-dessus, je crois, un petit peu, le portrait de Charles III. Voilà donc pour ce tableau, et donc là il y aurait des comparaisons à faire avec un très très grand portraitiste de cour, mais qui peignait plutôt au pastel, et qui peignait des portraits d'hommes illustres, c'est-à-dire des hommes de son temps, hein, du XVIIIe siècle, des hommes extrêmement cultivés, qui représentent parfaitement le siècle des Lumières, c'est Maurice Quentin de la Tour. Maurice Quentin de la Tour a fait les portraits au pastel des plus grands représentants des Lumières, si vous voulez, au XVIIIe siècle. Là, il y aurait des comparaisons à faire entre donc la composition qu'on a sous les yeux et les compositions qu'on retrouve dans les tableaux, donc dits parfois de conversation de Maurice Quentin de la Tour. Et alors, en partant de cette tradition, donc pour résumer, donc on a ici un grand portrait de cour décoratif, mais qui s'inscrit bien dans le siècle des Lumières et qui montre effectivement l'homme cultivé qu'était le comte de Floridablanca. En partant de cette tradition, Goya parviendra à une formule dépouillée, sorte de traduction moderne de l'héritage de Velázquez, parce que dans ce domaine du portrait, Velázquez est absolument incroyable. Il suffit simplement de penser au Ménine et là aussi à l'audace de Velázquez quand il peint le portrait du roi et de la reine qui se reflète dans un miroir. Il faut beaucoup d'audace, bien sûr, et c'est cette tradition ou cet héritage de Velázquez que Goya va moderniser par la suite. Je vais vous montrer ça, bien sûr. Donc des portraits donc, qui seront très très différents de celui que vous avez sous les yeux, mais qui sont aussi un petit peu plus tardifs, évidemment. Alors, par contre, il faut maintenant introduire la terrible maladie qui est survenue et qui a frappé Goya. Donc, c'est une maladie qui survient alors qu'il est à Cadix, en 1792, précisément. Donc, il est au sommet de sa gloire, parce qu'en 1792, rappelez-vous, il est déjà peintre de la cour de la chambre du roi Charles IV. Et en 1792... Goya devient irrémédiablement sourd. À cela s'ajoutent des problèmes d'équilibre, des problèmes de tout un tas de problèmes qui se rajoutent à sa maladie, finalement, qui a démarré par des acouphènes, mais ces acouphènes se terminent par une surdité qui est effectivement irrémédiable. Les acouphènes terribles qu'il subissait, Goya, l'a placé en convalescence, et notamment en convalescence dans des asiles. Non pas qu'il était fou, Goya, il n'a jamais été fou, Goya, hein, mais effectivement, c'était des lieux où on pouvait soigner donc les gens qui souffraient comme cela de maladies qui ne se voient pas. Les acouphènes, effectivement, c'est quelque chose que l'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et c'était celui qui souffre d'acouphènes, par exemple, hein, et ça peut rendre sourd, évidemment. Alors, c'est une infirmité qui est absolument terrible pour un peintre de la chambre du roi, qui est inscrit dans la cour, donc est un membre à part entière de la cour du roi. Tout d'un coup, cette infirmité le coupe carrément de l'extérieur. Donc il va avoir une perception, si vous voulez, des autres totalement différente, puisqu'il ne les entend plus. Et c'est vrai que cette infirmité joue le rôle d'un catalyseur. Si on devait effectivement trouver une charnière dans la carrière de Goya, de façon à expliquer ce que l'on verra tout à l'heure, parce que c'est à Madrid, les peintures de la Maison du Sourd, la Quinta del Sordo, donc si on devait trouver une charnière, expliquer comment on passe de l'un à l'autre, la charnière serait ici. 1792, il est sourd, surtout ça le coupe de l'extérieur et ça libère chez lui un monde angoissant auquel il échappait auparavant en s'impliquant justement dans la vie sociale et mondaine, en faisant des portraits comme celui que vous avez sous les yeux. Mais là maintenant, effectivement, c'est plus possible, et ça va changer complètement la manière de peindre de Goya, voire peut-être la façon qu'il avait de considérer le monde dans lequel il vivait. Alors, cependant, donc malgré sa maladie, malgré son infirmité, cette infirmité qui l'a conduit en convalescence dans des asiles, une infirmité qui est physique, parce qu'il est affaibli aussi physiquement, on verra tout à l'heure un autoportrait de lui qui est étonnant. étonnant à ce propos. Bon. Malgré tout, il reçoit, ou il accepte plutôt, une commande qui est, là aussi on pourrait dire, courageuse de la part de Goya. D'abord, donc, on va préciser qu'il a 52 ans. À 52 ans, sa santé est fortement ébranlée. Mais malgré tout, Goya accepte la charge de décorer l'ermitage de San Antonio de la Florida, qu'on va situer bien sûr à Madrid, hein, puisque c'est un peu le but du sujet. Goya, donc la peinture de Goya, donc à Madrid, ou Madrid du temps de Goya. Cet ermitage San Antonio de la Florida est proche du Manzanares. Et l'ermitage avait été construit entre 1792 et 1798, d'après les plans dessinés par un Italien qui s'appelle Filippo Fontana. Fontana est un très, très grand, une très grande référence en matière d'architecture italienne à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est d'après ses dessins qu'est construit l'ermitage en question. Et le peintre reçoit aussitôt après la construction du gros œuvre de l'ermitage la commande en question. Il la reçoit notamment grâce à ses amis éclairés, ceux qui sont restés au pouvoir. Parce qu'attention quand même, l'ambiance de la cour sous Charles IV n'est pas tout à fait la même que celle qui régnait sous Charles III, qui était un homme beaucoup plus éclairé. Mais il y a encore des ministres qui sont les amis de Goya, qui sont encore ministres, tel Jovellanos par exemple. Jovellanos était toujours ministre et par son biais il reçoit cette commande qu'il accepte courageusement, parce qu'effectivement il va falloir qu'il peigne tout simplement la coupole. Vous avez ici une coupole et donc c'est l'intrado de la coupole qui est peinte à fresque par Goya. Et on sait qu'une fresque, c'est pas une peinture à l'huile sur toile ou sur bois, c'est totalement différent. L'exercice de la fresque est quelque chose de très physique. Bon, or, il est affaibli. Alors bon, en même temps, c'est vrai que les dimensions de cette église sont bien inférieures à la basilique du Pilar. La basilique du Pilar, c'est à Saragosse. Donc, je n'avais pas effectivement à présenter la peinture de Goya à la basilique du Pilar. C'est à Saragosse. Goya, je vous rappelle, effectivement, avait assumé la charge de peindre des fresques monumentales dans la basilique du Pilar, qui sont toujours visibles aujourd'hui, bien heureusement, et qui sont monumentales. Mais il était jeune, il était en forme, il n'était pas infirme. Bon, là, il a 52 ans, et il accepte de monter de nouveau sur un échafaudage dans de mauvaises conditions physiques, mais ça démontre la volonté de Goya, hein, malgré la maladie. Donc ça montre sa volonté. Et certes, la coupole est beaucoup plus petite que celle de la basilique du Pilar, mais enfin quand même. Et le résultat qu'il obtient, alors que bon, donc vous connaissez maintenant les conditions dans lesquelles il a peint cette coupole, le résultat est absolument fantastique. Donc on se projette aussitôt à l'intérieur. Voici la peinture de la coupole, les fresques de l'église San Antonio de la Florida, donc à Madrid, 1798, c'était la fin du gros œuvre de l'ermitage en question, enfin de l'église. Bon. Donc voilà, la coupole est petite, c'est vrai, donc pour une coupole, 5,50 m de diamètre, c'est petit. Non, encore fallait-il le faire. Bon, c'est sûr qu'à la basilique du Pilar, c'est beaucoup plus gigantesque. Alors le thème essentiel de cette décoration se trouve là, sous nos yeux, donc dans la coupole, et représente le miracle de Saint Antoine de Padoue recevant la confidence d'un ressuscité. Donc un ressuscité lui parle, et l'homme en question était mort assassiné, le ressuscité était mort assassiné, mais il se manifeste, parle à Saint Antoine de Padoue. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on avait accusé à tort le père de Saint Antoine. Et donc bien sûr le ressuscité, parce que donc il a affaire à Saint Antoine, se réveille, si vous voulez, enfin il ressuscite et dit la vérité à Saint Antoine, vérité qui sera entendue par tous, ce n'est pas effectivement le père de Saint Antoine qui avait tué cet homme. Hein. Alors bon, c'est vraiment un prétexte, hein, c'est une histoire qui est une hagiographie bien sûr, un prétexte à peindre une scène absolument fabuleuse. Hein. Le reste de la composition, parce qu'en fait les deux personnages sont là, hein, donc Goya aurait pu réduire l'iconographie à Saint Antoine de Padoue qui est ici et puis le ressuscité qui est en face de lui. Mais on remarque que le reste de la composition, c'est-à-dire la composition qui fait le tour de la coupole, est un cœur de spectateurs composé d'une population variée. Donc ce sont des hommes, des femmes, des enfants, parmi lesquels se trouvent, dans cette foule, des mendiants, il y a de nombreux mendiants, et ils contemplent en quelque sorte la révélation miraculeuse, et je vous montre maintenant les détails. Déjà, on appréciera la composition, elle est, comme les cartons de tapisserie que je vous ai montré tout à l'heure, elle est claire, elle est lumineuse. Il y a un paysage qui se profile. Elle fait référence, bien sûr, à tout un passé, hein, donc tout un passé artistique. Et on songe notamment à Mantegna, dans la chambre des époux. Mantegna avait peint comme ça un balcon qui est vu sur la coupole de la chambre des époux, donc peint par Mantegna. Donc c'est une référence, puisqu'on retrouve ici un balcon. Bien sûr, enfin, c'est tout un passé artistique qu'on retrouve ici, et de plus près, voilà ce que donne finalement cette peinture. Donc là, vous avez le vis-à-vis, si vous voulez. Donc saint Antoine de Padoue est ici, le ressuscité est là, parle, donc tout le monde l'écoute, et fait disparaître ce doute. Ce n'est pas le père de saint Antoine qui a tué cet homme, hein. Bien sûr, c'est la grande révélation, et le reste n'est qu'un prétexte, en fait, hein, à jouer sur un décor, mais qui est magnifique, hein. Et alors cette décoration fait apparaître une stupéfiante liberté de la part du peintre. Là, il y a une évolution par rapport aux cartons. Les cartons que je vous ai montrés tout à l'heure, même les plus tardifs, hein, c'est-à-dire ceux qui dataient presque déjà de cette époque, de la fin du XVIIIe siècle, tous étaient peints à la manière flamande ou française. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Ici, la facture est aisée, la couleur d'une vivacité étonnante, même si Média Positive ne renvoie pas la couleur, mais là, les couleurs sont extrêmement riches et c'est très très lumineux. Et il y a effectivement cette question de la facture, c'est-à-dire la touche du peintre. La touche s'est complètement libérée, c'est-à-dire qu'il travaille à coups de brosse, il va brosser ses figures, ce faisant, il les suggère plus qu'il ne les dessine. En effet, si on se rapproche par exemple de quelques détails, donc le détail plastique, pictural, donc de l'habit de cette femme qui est un témoin finalement de la scène miraculeuse, donc remarquez comment il peint, il suggère à peine les formes, hein. Donc il faut vraiment prendre un certain recul, donc c'est justement le recul de la coupole, pour embrasser toute la forme. Et de près, effectivement, il arrive à une technique qui est tout à fait étonnante, qui prépare des techniques beaucoup plus tardives, celles des impressionnistes ou des post-impressionnistes. Donc on voit effectivement comment ils travaillent, par empattement, par rehaut, par coup de brosse. Donc là, il écrase la pâte pour créer des effets plastiques, mais ces effets plastiques en retour sont des effets de lumière, des effets de couleur, des effets de forme aussi, hein. Alors de forme, ça veut dire que la figure, au bout du compte, elle donne l'impression d'être vivante, comme s'il avait le souci de saisir comme ça sur le vif ces personnages qui sont les témoins du miracle en question. Et là, il y a une évolution technique extraordinaire chez Goya. C'est-à-dire que déjà à cette époque, il devient un peintre incomparable. Il n'y a personne qui, à la fin du XVIIIe siècle, peignait comme Goya. Je vous rappelle quand même le contexte. Hein. Le contexte artistique européen est l'académisme. On est revenu à un néoclassicisme qui est représenté en France, par exemple, par David, le grand peintre David. Imaginez, David et Goya sont parfaitement contemporains. Quel écart, quand même, hein, si vous avez une petite idée de la peinture de Louis David, quel écart, le néoclassicisme d'un côté, l'académisme d'un côté, et la touche d'une liberté incroyable de Goya. Et en se rapprochant encore, donc on peut voir des effets qui sont étonnants. Ah, on retrouve bien le Fa Presto quand même, hein, le Fa Presto qui avait été représenté par Fragonard qui était parti en Italie pour justement apprendre des Italiens le Fa Presto, et on sait ce que ça donne chez Fragonard. Et là vous avez quand même un petit peu, hein, donc dans la continuité de la peinture baroque du XVIIIe siècle, cette touche, mais attention quand même, elle va très vite s'assombrir, hein, cette touche, et sur le plan de l'iconographie aussi, hein, et d'ailleurs on va le voir, voici d'autres détails, de la même coupole, hein, toujours la même coupole. Ah, c'est un ensemble superbe, hein, c'est un ensemble vraiment à ne pas rater quand on va à Madrid, hein, pour ceux qui aiment Goya, hein, parce qu'on peut ne pas aimer Goya, hein, bien sûr. Mais enfin, pour ceux qui aiment Goya, quand même, c'est incontournable. On voit qu'il aime enfin, représenter le peuple pauvre, hein, le peuple misérable, finalement, hein, des gens qui sont des gens marqués par la vie. Hein. Donc le maçon blessé, tout à l'heure, annonçait cette iconographie, et il la développe très largement, mais cette fois-ci, il la développe avec une facture, une touche, qui n'est pas du tout comparable à celle du maçon blessé ou de l'hiver. Là, il s'est libéré, techniquement, et donc il ne fait plus que brosser des formes qui sont faites pour être vues de loin, mais ça crée des effets plastiques, et surtout un effet vivant. Les personnages semblent vivre là sous nos yeux, ou vibrer, on pourrait dire aussi, hein, comme la touche est suggestive, les figures semblent vibrer, littéralement. Et là, vous avez à droite un détail, toujours, hein, de la coupole de l'Ermitage, mais qui annonce peut-être un peu, déjà, les peintures noires. Ah, c'est une peinture incomparable, hein, là, ici... incomparable parce que donc un peintre comme Fragonard qui aurait pu peindre avec cette technique, hein, qui avait déjà donc cette technique, hein, un peintre comme Fragonard n'abordait jamais de tels sujets. Hein, donc avec Fragonard, bien sûr, les sujets sont liés donc à l'esprit baroque et rococo, donc fondamentalement aux fêtes galantes. Mais avec Goya, ça s'entraîne. Bon, alors il n'en reste pas moins ce peintre bien qu'affaibli. Malade, sourd, coupé du reste du monde, il n'en reste pas moins peintre de la chambre du roi. Le roi, c'est Charles IV. Et c'est maintenant que l'on peut introduire ce fameux tableau qui est tout à fait étonnant, qui est justement le tableau pour lequel je disais tout à l'heure qu'il récupère à son compte l'héritage de Velázquez, l'héritage des portraits de Velázquez, mais qu'il va moderniser avec une pertinence tout à fait incroyable, cet héritage de Velázquez. Alors bon, la crise qu'il a vécue, la crise, c'est-à-dire la maladie, a accentué l'acuité d'un œil inquisiteur. Et il reçoit ici une commande qui est une commande tout à fait officielle, mais la lucidité avec laquelle il étudie ces personnages, ces êtres que l'on a ici sous les yeux, va jusqu'à la cruauté, sans scrupule et sans égard pour ses commanditaires, c'est-à-dire la famille royale. Il va peindre effectivement ces personnages. Il s'agit nullement d'une charge, c'est pas qu'il a voulu effectivement charger ses personnages, c'est que tout simplement ces fantoches alignées sont ceux qui ont présidé au malheur de l'Espagne. Le sentait-il Goya, vraisemblablement, qu'il avait compris effectivement que ces gens n'étaient que des fantoches finalement, hein, qui allaient précipiter l'Espagne dans la grande crise politique que j'évoquais en introduction. La disposition en frise ne respecte pas l'ordre de préséance. Logiquement, effectivement, au centre du tableau, il devrait y avoir le roi. Le roi gras est insignifiant. Il est décalé, effectivement, dans la composition, plutôt à droite. La reine, coquette sur le retour, horrible et provocante, présente d'une manière théâtrale ses plus jeunes enfants. Ses plus jeunes enfants sont de part et d'autre d'elle, occupent le centre de la composition. Il s'agit de l'infante Marie-Isabelle et de Don Francisco de Paula. Ce sont les enfants. L'héritier du trône, lui, c'est Ferdinand. Il est impassible ou alors hébété, on ne sait pas. Il fait pendant au souverain. C'est-à-dire que si le roi est ici, alors qu'il devrait être à la place de son épouse, la reine, bon, mais la reine occupe le champ, finalement, on pourrait dire, le fils héritier, le prince héritier, Ferdinand, lui, est ici. Il est ici. Impassible ou hébété, à vous de voir. Donc c'est vous qui vous faites une idée de ce personnage qui va s'avérer épouvantable pour l'histoire donc de l'Espagne. À ses côtés, c'est-à-dire juste là, à ses côtés, ici, là, se tient son frère cadet, c'est-à-dire Don Carlos. Don Carlos, c'est le frère cadet. une figure d'enfant prématurément vieilli. Et à l'arrière-plan, à gauche, c'est-à-dire juste là, là se trouve, un visage de sorcière, comme les aimera beaucoup Goya, tout droit sorti de ses caprices, et d'ailleurs les caprices ont déjà été publiés à cette époque de Goya. Il s'agit ici de l'infante Maria Josepha, la sœur du roi. Alors j'ai dit, c'est pas une charge, mais enfin quand même. Là voilà. À ce propos, remarquez la marque qu'a laissée la syphilis. Ça, vous retrouvez ça dans la peinture de Hogarth. Hogarth qui est un caricaturiste, qui a un regard qui est tout à fait comparable au regard de Goya sur les gens qui l'entourent, c'est-à-dire les classes aristocratiques. Dans la peinture de Hogarth, c'est systématique. Il n'y en a pas un qui échappe à la marque noire, c'est-à-dire laissée par la syphilis. Bon, mais c'est un très beau tableau. C'est-à-dire qu'il y a des effets plastiques, des effets picturaux, des effets de couleur, des effets de touche aussi, donc des effets de lumière absolument sensationnels. C'est de très très beau. Donc par exemple ici, effectivement, comment il a suggéré, comme l'aurait fait Velázquez, là aussi on sent bien la touche ou l'héritage de Velázquez. À ce propos d'ailleurs, avant de le perdre de vue, je vous rappelle que là vous avez l'autoportrait de Goya. Et bien sûr, cet autoportrait de Goya qui est ici fait écho à l'autoportrait de Velázquez dans les Ménines. Donc c'est comme ça que vous faites le lien entre l'héritage de Velázquez et la peinture de Goya. Donc quoi qu'il en soit, ici la main gauche du roi Charles IV, gras et insignifiant, cette main est rendue avec une virtuosité incroyable, toujours cette technique de la suggestion. Il ne s'agit pas de souligner les formes, mais de les suggérer pour être vues de loin. Il travaille à partir d'empattements, de rehaut. Les rehauts accrochent la lumière, traduisent la matière, notamment l'épée en question qu'il tient dans sa main. Donc on sent bien effectivement les effets de matière très différents entre le petit voile au niveau de la manche ou l'épée qu'il tient. Bon. Et donc si on continue à présenter ces personnages, ces personnages, alors à droite, un autre visage marqué par l'imbécilité représente l'infant Don Antonio, le frère du roi. Il est ici, il est là. Et finalement on pourrait dire que seul le couple formé par le prince Louis de Parme, qui est le plus grand que le roi, il est ici, Louis de Parme, et l'infante Marie-Louise, Marie-Louise qui tient son enfant dans les bras, seul ce couple apporte une note de grâce et de jeunesse parmi ces êtres, des êtres qui sont disgraciés ou carrément pervers. Alors effectivement, Marie-Louise est une figure superbe, qui tranche quand même avec la précédente qui était marquée par la syphilis. Là aussi, on apprécie la lumière et l'éclat des perles, par exemple. Comment ils travaillent, ce sont des petites touches, en fait, des petits rehauts. Donc c'est une manière de peindre qui est déjà impressionniste. On pourrait le donner à Renoir, ça, ce petit morceau-là. On pourrait le donner à Renoir, pourquoi pas. Et quand même, donc on va la montrer, Marie-Louise de Parme. Donc avec ses enfants, et là aussi, bon, quand même, il faut remarquer que les enfants sont bien traités par Goya. C'est très vrai pour la jeune fille. Voilà, donc il y a une touche qui est vraiment incomparable. Incomparable pour rendre notamment la parure en or dans la chevelure. Donc là, c'est quelques touches qu'on suffit, et des touches qui par moments disparaissent. Pour juste suggérer la parure. De loin, c'est magnifique. De près aussi, c'est magnifique, mais enfin, c'est fait pour être vu de loin, comme la peinture impressionniste. Voilà. Alors, en novembre 1792, cette femme-là que vous avez ici, qui est la reine, donc cette femme avait un favori. En 1792, c'est un jeune militaire, Manuel Godoy, qui devenait le favori de la reine, donc de cette femme. Et par le biais de Marie-Louise de Parme, donc de la reine, de l'épouse de Charles IV, Manuel Godoy, est choisi comme premier ministre. Bon, vraisemblablement, c'est pour lui, pour Godoy, que Goya peint, avant novembre 1800, une Mara nue, qui est probablement Pepita Tudo, c'est-à-dire la maîtresse de Godoy. où la situation est compliquée. Parce que Marie-Louise de Parme est la reine, mais elle a son favori est marié, mais le favori en question, Manuel Godoy, a une maîtresse qui s'appelle Pepita Tudo, et par le biais donc du peintre de la chambre du roi, donc par le biais de Marie-Louise de Parme, effectivement Goya fait le portrait probable, hein, ça n'est après tout pas sûr à 100%, mais on suppose effectivement que c'est le portrait de Pepita Tudo, c'est-à-dire la maîtresse de Godoy. Hein. Alors, la Mara nue, tableau très très célèbre, qui finalement correspond à un jeu visuel, mais un jeu visuel en deux temps. Hein. Donc, le tableau est daté approximativement entre 1797 et 1800. Jeu visuel en deux temps, puisque effectivement, dans un deuxième temps, il va l'habiller, peindre exactement le même sujet, donc, mais habillé. Est-ce que c'est un jeu érotique pour Manuel Godoy? Effectivement, ça arrive souvent dans l'histoire de la peinture, des peintres qui se plient finalement donc, à des fantasmes de leur commanditaire. Et donc on peut imaginer effectivement que Godoy avait ces deux tableaux et qu'il jouait comme ça sur la Mara habillée et la Mara donc déshabillée. Donc la voici habillée. Mais le tableau est plus tardif, c'est pour ça que je disais en deux temps. Hein, donc le tableau a été fait entre 1800 et 1805. Ce sont des chefs-d'œuvre hein, de la peinture, il suffit simplement de découvrir, d'apprécier la couleur. Comment Goya applique la couleur dans sa peinture? La couleur est suggestive, elle suggère des fonds, elle suggère des étoffes, elle suggère des matières diverses. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais le tableau que vous avez ici, c'est juste un prétexte pour y revenir d'ailleurs. Hein, bon, mais donc le tableau que vous avez ici est un clin d'œil à Velázquez. On connaît tous, bien sûr, la Vénus au miroir de Velázquez, qui est à Londres, à la National Gallery, et donc qui pourrait faire écho à cette composition. Là aussi, on apprécie les étoffes. Les étoffes, enfin, on n'est pas obligé de regarder que les étoffes. Bon, on peut regarder aussi donc, le modelé du corps de cette Mara nue. Donc, quoi qu'il en soit, sur un plan technique, c'est d'une virtuosité absolument incroyable. Donc, c'est sur le plan de la luminosité, sur le plan des couleurs, de la facture, de la touche très libre de Goya. Alors, parlons de Godoy. Hein, Godoy, c'est un personnage épouvantable, tout à fait épouvantable. Le voilà. Donc Manuel Godoy, hein, peint par Goya, bien sûr. Hein, donc toutes les peintures que je vous montre là, enfin, à part les fileuses de Velázquez par lesquelles j'ai commencé le cours, toutes les peintures sont de Goya. Alors parlons de ce personnage. En 1795, la France et l'Espagne, en guerre depuis 1793, cessent les hostilités. Godoy est au fait de sa gloire, il reçoit le titre de prince de la paix, car effectivement c'est grâce à lui que la France et l'Espagne cessent les hostilités. Alors cependant, l'arrivée au pouvoir de Napoléon en 1799, son couronnement en 1804, influe sur les relations internationales. Napoléon avait besoin, dans sa lutte contre les Anglais, de la collaboration de l'Espagne et surtout de sa flotte. Il voulait la flotte de l'Espagne. Bon. Et pour cela, il fait pression sur Charles IV pour qu'il renouvelle sa confiance en Godoy. Bon, donc le prince de la paix. Et celui-ci revient au pouvoir sous la pression de Napoléon. Il revient au pouvoir en 1800 et Godoy signe la convention d'Aranjuez qui date de 1801. Cette convention d'Aranjuez mettait à la disposition de Napoléon l'escadre espagnole. C'est ce que voulait Napoléon à tout prix. Mais ça entraînait de fait une guerre contre la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que Napoléon impliquer l'Espagne dans une guerre qui, a priori, ne concernait que l'Angleterre et la France. Mais maintenant, l'Espagne est impliquée à cause de Godoy, à cause, finalement, du prétendu prince de la paix. Bon, alors Godoy déclare de ce fait la guerre au Portugal. Il déclare la guerre au Portugal en 1802. Pourquoi ? Parce que le Portugal était le principal allié anglais sur le continent. Et cette guerre, connue sous le nom de guerre des Oranges, débouche sur l'engagement du Portugal de ne plus accueillir les bateaux anglais dans ses ports. C'est encore une victoire de Godoy. Godoy, effectivement, réussit à faire que le Portugal n'accueille plus les bateaux anglais dans ses ports. Mais en 1805, la déroute subie donc lors de la bataille de Trafalgar modifie considérablement la donne, évidemment. Bon. Et face à l'hégémonie anglaise, Napoléon a recours au blocus continental dans lequel il implique l'Espagne. En 1807 est signé le traité de Fontainebleau. C'est un traité qui partageait le Portugal entre la France, l'Espagne et Godoy. Et Godoy. Godoy, c'est un État à lui tout seul. Donc le Portugal était partagé entre la France, l'Espagne et Godoy au traité de Fontainebleau en 1807. Et surtout, surtout, comprenez bien que ça autorisait tout d'un coup hein, ce traité de Fontainebleau, qui arrange Godoy, bien sûr, puisqu'il hérite d'une part du Portugal. Bon. Mais ça autorise surtout les troupes françaises d'occupation à passer par l'Espagne. Nous sommes en 1807. Napoléon entre en Espagne pour combattre les Anglais au Portugal. La présence des troupes françaises sur les territoires espagnols accroît l'opposition à Godoy, mais surtout déclenche des événements qui sont proprement atroces. Bon, et que Goya, bien sûr, va peindre. Donc les deux tableaux sont extrêmement célèbres. Le 2 et 3 mai 1808, le 2 et 3 mai 1808, ce sont deux tableaux différents, bien sûr, qui traduisent cette situation historique et dramatique pour l'Espagne. Hein. Bon. Et Godoy en est le responsable, le prince de la paix, c'est lui, finalement. Alors qu'il est espagnol, c'est lui qui entraîne l'Espagne dans le drame total, quoi. Bon. Et puis, bon, bien sûr, il y a la part de responsabilité du roi sur lequel j'insiste, gras et insignifiant. Bon. Donc, Charles IV, hein, je parle de Charles IV. Bon. Alors, à la fin de l'année 1807, a lieu la conjuration de l'Escurial. Cette conjuration est menée par Ferdinand. Ferdinand, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le prince héritier. Je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est le prince héritier. Il est le prince des Asturies. Et Ferdinand voulait la destitution de Godoy et la déposition de son propre père, Charles IV. Donc il y a une rivalité ici entre le père et le fils, Ferdinand et Charles IV. Et Godoy est au milieu de tout ça. Ferdinand, lui, dénonce tout ça. Cependant, la tentative, la conjuration de l'Escurial, hein, menée par Ferdinand, échoue. Ferdinand dénonce tous ses partisans, mais ne peut rien faire du tout, finalement, contre et son père et Godoy, et en mars 1808, face à l'occupation française, Godoy conseille au roi de quitter l'Espagne. Au roi au pluriel, d'ailleurs, hein, c'est le roi, toute sa cour, c'est aussi, ça s'implique aussi Ferdinand, etc. Et c'est un échec, hein, c'est un échec total. Donc le roi ne pourra pas quitter donc l'Espagne ni sa cour, donc bien sûr, ils seront arrêtés tout simplement et enfermés. Donc c'est un échec. Donc nous sommes quelque temps après l'emprisonnement et le transfert de la famille royale espagnole, quand on voit ce tableau et l'événement hein, auquel il se rapporte, nous sommes juste après cet échec, juste après l'emprisonnement et le transfert de la famille royale espagnol, le tableau va représenter l'une des scènes de combat les plus célèbres qui opposent le peuple madrilène aux forces d'occupation françaises. Le combat a lieu le 2 mai 1808. L'épisode se déroule à la Puerta del Sol, à Madrid. Le tableau n'a pas vraiment de valeur de témoignage. Parce que vous l'avez remarqué, c'est signalé sur la projection, il a été peint 6 ans après l'épisode. L'épisode date de 1808, le tableau de 1814. Bon. Donc Goya est informé, bien sûr, il est informé, peut-être même qu'il a assisté à l'événement, mais ça, ça on ne le sait pas. Mais en tout cas, donc, le tableau qui est peint longtemps après l'événement. Alors on sait par ailleurs que l'œuvre que vous avez sous les yeux faisait partie d'une série de 4 scènes représentant chacune l'un des moments les plus marquants du soulèvement. L'émeute au Palais Royal, la charge de la Puerta del Sol, la charge de la Puerta del Sol, donc c'est ce que vous avez sous les yeux, la défense du parc d'artillerie et les fusillades des rebelles. Hein, donc il n'y en a que deux finalement sur les quatre qui seront peints parce que les dimensions sont gigantesques, hein, ce sont des très très grands tableaux. Enfin, logiquement à l'origine, c'était une série de quatre. Hein. Donc ça c'est la charge, tout à l'heure on verra bien sûr donc les fusillades. Alors, le tableau est fantastique sur le plan technique. Il pourrait, dans ce cas plutôt, être qualifié de romantique, mais je crois que la plupart du temps, dans les histoires de l'art, Goya est présenté comme un peintre romantique. Romantique, ça veut dire, attention, ne vous trompez pas sur le sens de romantique pour cette époque, c'est la mort et la folie. Hein. Le romantisme, c'est la mort et la folie. Hein. C'est la passion qui entraîne à la mort, hein, qui donc sans aucun recul. Enfin, il y a que la mort ou la folie comme issue dans le romantisme. Et c'est un peu ce que traduit effectivement ce tableau, hein, c'est-à-dire des rebelles qui sont passionnés et qui sont prêts donc bien sûr à aller jusqu'au bout, la mort pour leur cause. Bon. Alors oui, donc c'est un tableau qui est fascinant sur le plan de la composition. Goya est toujours soucieux du cadre dans lequel se place donc son sujet. Donc on voit une architecture qui renvoie à celle de la Puerta del Sol, je le disais à l'instant. Donc c'est une composition très dynamique. Je la disais romantique parce que j'avais en tête bien sûr Delacroix. Delacroix est aussi un contemporain de Goya. Et dans les compositions de Delacroix, vous avez autant de fougue, de mouvement, de travail suggestif pour justement accompagner le dynamisme de la composition, ou de couleur, ou d'orientalisme aussi chez Delacroix, hein, chez le peintre Delacroix. Delacroix est le représentant en France du courant romantique à l'opposé de David, qui lui, en France, est le représentant du néoclassicisme et de l'académisme. Donc Goya, effectivement, est ici plutôt un peintre romantique. Alors ce qui est tout à fait terrible, c'est ce qu'il fait maintenant de sa technique. Il utilise sa technique pour rendre ses personnages, je vous montre quelques détails, notamment ici, ce personnage qui vient de poignarder son ennemi, ou encore celui qui est, qui est au premier plan en bas à gauche. Je vous présente ces deux têtes-là, donc le cadavre finalement qui nous est projeté comme ça au premier plan à gauche, et la tête de ce personnage. Et là effectivement on voit comment Goya utilise sa technique. Et je le préparais d'ailleurs tout à l'heure en disant sans concession, hein, c'est un peintre Goya sans scrupule, sans égard, hein, pour son spectateur. Hein. C'est là où, effectivement, on bascule d'une technique qui était jusqu'à présent suggestive, mais suggestive pour suggérer les formes, les couleurs, la lumière, bon, etc., à une technique qui devient finalement, ou qui vise plutôt à déformer les personnages, à accentuer l'horreur. Donc il faut passer par la déformation des figures pour accentuer l'horreur, et là c'est une tendance qui n'est plus romantique, quoique Delacroix, par exemple, qui est le grand peintre de référence en matière de romantisme, Delacroix est un peintre qui met beaucoup la caricature, qui met beaucoup déformé, hein, donc les visages des personnages. Mais là je pense que ça va encore au-delà, et qu'on pourrait presque parler d'une tendance expressionniste de la peinture, hein, chez Goya. Alors où s'est déroulée la scène ? Ici, c'est là, parce que je ne perds pas de vue, hein, bien sûr, là, le sujet, Madrid du temps de Goya. Donc c'est là que s'est jouée la scène épouvantable du 2 mai. La Puerta del Sol était à l'origine l'une des portes permettant de franchir le mur qui entourait Madrid au XVe siècle. Et son nom fait référence au fronton de l'un de ses édifices qui figurait jadis un cadran solaire, d'où le nom de Puerta del Sol. Hein, référence à un cadran solaire qui a existé. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, la place était un important lieu de rendez-vous. La Puerta del Sol est située au cœur de Madrid, et pour bien situer les événements dramatiques qui se sont joués, hein, les 2 et 3 mai 1808, on va préciser aussi que juste au sud-ouest de la Puerta del Sol se trouve la Plaza Mayor. Donc les événements épouvantables que peint Goya ont lieu effectivement au cœur, hein, de la ville de Madrid, et surtout en des endroits qui sont riches donc historiquement, puisque c'est en 1580 que le roi Philippe II charge l'architecte Juan de Herrera, qui est un des plus grands architectes du XVIe siècle. Donc il le charge de réaménager cette place. Les travaux débutent dès 1590 avec l'édification de la maison de la boulangerie, conçue par Diego Silero, qui remplace l'ancienne halle. Et à partir de cet arrangement, donc la place a été très modifiée par la suite, puisqu'en 1617, Philippe III d'Espagne chargeait Juan Gomez de Mora de poursuivre le projet, hein, qui sera achevé 2 ans plus tard, en 1619. Mais entre 1631 et 1790, la place est ravagée par 3 incendies qui imposent à chaque fois sa reconstruction. Et encore, on va ajouter qu'en 1812, sur décret, les places les plus importantes d'Espagne sont toutes renommées. Place de la Constitution pour cette place qui est ici, en l'honneur de la nouvelle Constitution. Et la place porte ce nom jusqu'à la restauration de Ferdinand VII. Ferdinand VII, je vais en parler tout à l'heure, donc en 1814. Donc il va s'imposer. C'est la date à laquelle la place redevient place royale, puis elle redeviendra place de la Constitution à 3 reprises. Hein. Mais je vais vous parler des événements, hein, à propos de Ferdinand VII, car le personnage qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans le tableau de Goya, le personnage va s'avérer absolument épouvantable. Et troisième lieu qui correspond aux événements, c'est ce lieu-là. Donc là, nous sommes cette fois-ci à l'ouest de la Puerta del Sol. À l'ouest de la Puerta del Sol se trouve le Palais Royal de Madrid. Hein. Donc il faut bien distinguer effectivement ces lieux, que ce soit le Pardo qu'on a vu tout à l'heure, ou le Palais Royal, sont des lieux qui sont distincts, mais qui se trouvent à Madrid, ou alors à proximité de Madrid pour le Pardo. Et le Palais Royal de Madrid a été construit entre 1738 et 1755 sur ordre de Philippe V, et il a été habité par le roi Charles III. En 1764, c'était le palais dans lequel vivait Charles III. Juste une petite référence architecturale, Philippe V, qui est à l'origine, hein, de ce palais, avait choisi comme architecte, là aussi, un très très grand architecte, puisqu'il était, puisque c'était Filippo Giovara. Hein, Giovara avait fait le déplacement en 1735, mais il mourait en 1736, si bien que le roi choisit un disciple de Giovara, qui est Giovanni Battista Sacchetti, qui va travailler à partir de 1736. Il travaille là, il travaille ailleurs à Madrid. Enfin, c'est encore une référence italienne qu'on retrouve ici à travers cette architecture. Hein. Nous étions du temps de Philippe V. Hein. Le roi Philippe V demandait de limiter les frais de construction par rapport notamment au Versailles, entre guillemets, que proposait Jouvara. Jouvara, lui, c'est un immense architecte du XVIIIe siècle. Il fait le déplacement, c'est pas pour rien. Donc il a réalisé un projet qui aurait ruiné l'Espagne. Donc le roi lui dit, non, je veux limiter les frais de construction. Puis finalement, Jouvara meurt en 1736 et son disciple va respecter, bien sûr, la volonté du roi. Sacchetti, donc, propose un plan d'un palais avec une seule cour. Et c'est ce plan qui limite les frais, donc palais avec une seule cour, qui est approuvé en 1737, à partir de quoi Sacchetti est nommé architecte du palais et donc construit ce palais-là. Donc là, vous avez le contexte dans lequel s'est déroulé les 2 et 3 mai 1808. Le 3 mai 1808 reflète maintenant et de manière dramatique l'exécution anonyme des patriotes insurgés. On les a vus insurgés le 2 mai, ils ont perdu bien sûr leur insurrection, et une fois étouffée justement la virulente émeute du Palais Royal. Pourquoi je vous ai montré le Palais Royal? Parce que là s'est jouée une émeute absolument épouvantable qui a été étouffée, et aussitôt étouffée, cette virulente émeute du Palais Royal a pour conséquence l'exécution des patriotes insurgés. Et Goya s'inspire des gravures populaires qui rapportaient donc l'événement, gravures qui ont divulgué l'épisode, et cette fois-ci la fusillade où l'événement a lieu à la montagne Pio, que je montrerai dans un instant. Mais avant cela, effectivement, on va relever donc la force de la composition de Goya, le contraste qui existe entre le bloc hymne des soldats français et la luminosité des fusillés espagnols. En effet, d'un côté, on ne voit pas les visages des soldats. Ils apparaissent comme une machine à tuer, une sorte de bloc inhumain, si vous voulez. Par contre, en face d'eux, et sans aucune protection, évidemment, donc ainsi, non, des chemises ou des habits. Bon. Donc ce sont les Espagnols, qui, par contre, dont on voit les visages, et qui sont bien sûr tout à fait dramatiques. Et ce contraste entre une lumière, hein, c'est la lumière de la chemise blanche, bien sûr. Bon. Et donc là, le bloc très sombre des soldats se répète dans la composition, puisque c'est la nuit, semble-t-il, sur cette montagne Pillot. C'est la nuit, mais voilà, donc une lumière par le biais d'une lanterne qui est posée par terre, éclaire, illumine la chemise de l'insurgé. Et je vous montre bien sûr quelques détails. Alors là, c'est toujours pareil. Hein. Ce que maintenant Goya fait de sa technique, c'est tout à fait étonnant. Hein. Donc il va utiliser sa technique pour rendre des visages qui sont déformés, des corps déformés. Et surtout, c'est sans égard. Hein. C'est-à-dire qu'il peint, l'horreur, quoi. Il peint l'horreur de la guerre. Quant à la montagne Pillot, la voici, la montagne Pillot, telle qu'on pourrait la voir aujourd'hui, la montagne du Principe Pillot, qui est située à Madrid, entre la place d'Espagne et la rue Princesa. Donc si vous connaissez bien effectivement Madrid, vous pouvez vous situer entre la place d'Espagne et la rue Princesa. C'est là que se trouve la montagne du Principe Pillot, une colline d'abord connue sous le nom de Hauteur de San Bernardino, puis comme montagne du Principe Pillot. Pourquoi ? En raison de l'un de ses propriétaires, qui était un prince, le prince Guillermo Pillot, d'où le nom de Principe Pillot. Et Principe, tout simplement parce que le domaine en question, la propriété, donc était un terrain de la famille royale, tout bêtement. Donc quoi qu'il en soit, c'est à cet endroit que Francisco Goya situe les fusillades du 13 des Mayo, donc l'année 1808. Donc on découvre un temple qui est un temple antique du deuxième siècle avant notre ère, ou du moins ce qu'il en reste, sur cette montagne du Principe Pillot. Et revenons donc à l'événement, juste pour rappeler ou préciser que avant ces tableaux, puisque les deux tableaux du 2 et 3 mai 1808 ont été peints par Goya en 1814, mais juste avant, Goya avait publié une série de gravures qui s'appelle les Désastres de la guerre, un recueil qui fait écho à d'autres recueils de très très grands graveurs, notamment le français, sur ce sujet-là, donc les désastres de la guerre. Et remarquez que dans cette composition antérieure au 3 mai 1808, on a déjà la grande composition picturale, hein, c'est-à-dire un bloc très serré de personnages, ce sont les soldats français, et par contre les Espagnols, qui n'ont pour se protéger que des chemises, mais qui se battront jusqu'au bout. Remarquez effectivement comment l'Espagnol à gauche tient son couteau. Il le tient en marquant effectivement d'une façon ferme qu'il se battra jusqu'au bout. Et bien sûr, les visages sont déformés, les corps sont déformés pour intensifier l'événement, le rendre plus dramatique. Alors parlons de ce personnage. Vous l'avez vu tout à l'heure, beaucoup plus jeune, hébété ou on ne sait quoi, bon. Et bien sûr, il prend le pouvoir. Maintenant, il prend le pouvoir. En fait, il profite de la présence, attendez plutôt comme ça. Profitant de la présence royale au palais d'Aranjuez, le palais d'Aranjuez, c'est un palais de Philippe II d'Espagne qui avait été commencé au XVIe siècle. Vous le situez, ce palais d'Aranjuez, à 40 km au sud de Madrid. Bon, profitant effectivement de la présence royale, donc de la famille royale au palais d'Aranjuez, le soulèvement d'Aranjuez provoque l'arrestation de Godoy. Et ça entraîne aussitôt l'abdication de Charles Charles IV, le père de Ferdinand. Donc il abdique en faveur de son fils Ferdinand. Napoléon, qui de son côté est suspicieux face à ce changement, je vous rappelle que c'est Napoléon qui a voulu donc que Godoy reste en place. Bon, maintenant effectivement il a été arrêté. Donc Napoléon, qui est suspicieux, convoque la famille royale espagnole à Bayonne. Ferdinand, sous la pression à la fois impériale, c'est-à-dire Napoléon, et paternelle, c'est-à-dire Charles IV, rend la couronne à Charles IV. Il la rend le 6 mai, sans savoir que la veille, Charles avait accepté la cession de ses droits en faveur de Napoléon. L'histoire est tout à fait incroyable. Quand je vous disais effectivement que Charles IV était un personnage insignifiant, il avait accepté la cession de ses droits en faveur de Napoléon. Et ce dernier, donc Napoléon, désigne finalement comme roi d'Espagne son frère Joseph Bonaparte. Bon. En 1814, Ferdinand VII est replacé par Napoléon sur le trône espagnol, mais il maintient son père en exil par crainte d'un conflit. Ferdinand VII, dont vous avez ici un portrait peint par Goya, Ferdinand VII instaurera une monarchie absolutiste, une monarchie épouvantable, qui va provoquer à terme l'exil de Goya. Goya a eu peur de cet homme. Il avait ses raisons, Goya, hein, d'avoir peur de cet homme. Et précisons à ce propos que Charles et Maria Louisa, qu'on a vu tout à l'heure, le roi et la reine, mourront tous deux exilés à Rome en 1819. Alors ce personnage a pris le pouvoir. Je vous parlais donc à l'instant du palais d'Aranjuez, le voici, le palais d'Aranjuez, le palais royal d'Aranjuez, qui est à 40 km au sud de Madrid, qui est un très très beau palais qui date de 1587. Alors Goya a peur de cet homme, a peur de cette monarchie absolutiste qui s'impose à partir de 1814, et malgré donc une constitution que j'évoquais tout à l'heure, et surtout donc la santé de Goya ne s'arrange pas du tout. La santé de Goya donc est vraiment un point très difficile donc à gérer pour Goya. En fait, on pourrait presque parler d'une nouvelle maladie. Une nouvelle maladie qui, cette fois-ci, a failli l'emporter en 1819. C'est une nouvelle crise. Goya connaît l'angoisse métaphysique. Ça s'exprime notamment dans deux tableaux religieux que je vais vous montrer. Deux tableaux au rendu extrêmement libre. Ce sont les tableaux des Escuelas Pías des San Antón à Madrid, qui existent toujours, hein, je vais vous le montrer dans un instant. L'Escuelas Pías des San Antón est un bâtiment de Madrid. Autrefois, c'était un institut religieux dirigé par les pères piaristes. Donc Escuelas Pías, et de Pías on tire les pères piaristes. C'est l'ordre des écoles pies. P-I-E-S, un ordre des écoles pies, un complexe religieux dédié à San Antón Abad, pour ça qu'on parle effectivement des Escuelas Pías des San Antón de Madrid, et après sa réhabilitation, parce que le bâtiment existe toujours à Madrid, après sa réhabilitation dans la première décennie du 21e siècle, donc restauré il n'y a pas très longtemps finalement, il a accueilli plusieurs services municipaux, il a accueilli le siège du collège officiel des architectes de Madrid. Voici le bâtiment, ou du moins donc un angle, l'angle nord-est des écoles Pías de San Antón à Madrid, et l'église qui est à droite. À ce propos, l'église est de style néoclassique. Elle est assez exceptionnelle parce que la date de la construction de l'église est 1735-1740. À cette époque, il y a très très peu d'architecture de style néoclassique. Ça viendra plus tard, ça vient surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais ça montre effectivement que l'Espagne était attirée par ce style néoclassique, et l'a été en tout cas très tôt. Donc c'est le lieu, et il faut le savoir quand même, parce que c'est à l'intérieur que vous trouvez ces deux chefs-d'œuvre de Goya, dont je disais à l'instant qu'il traduisait donc les angoisses métaphysiques du peintre, suite à cette nouvelle maladie qui a failli le faire mourir en 1819. Voici les deux tableaux, c'est là que vous les voyez. Escuelas Pías de San Antón à Madrid. Il faut le savoir, effectivement, ce sont des tableaux qui sont tout à fait extraordinaires. D'un côté, la dernière communion de Saint Joseph de Calasanz et le Christ au Jardin des Oliviers à droite. Les deux tableaux sont in situ. Alors, c'est formidable comme composition. On croirait des compositions de Rembrandt. C'est Rembrandt qui aimait beaucoup ces jeux de lumière, ce rayon de lumière qui tombe sur les protagonistes de tel ou tel épisode, de telle ou telle scène, dans un contexte architectural qui est à peine suggéré, qui disparaît totalement à droite, qui est à peine suggéré à gauche, avec une foule, bon, et des effets de lumière et surtout de contraste. Hein. On croirait donc ici un tableau qui joue sur le clair-obscur à la manière caravagesque, ou je préfère dire en fait à la manière de Rembrandt. Par ailleurs, les sujets sont religieux, donc ça rappelle ou ça évoque des tableaux de Rembrandt de ce type-là, et sans quoi, oui, la quête métaphysique, l'angoisse métaphysique de Goya, elle se traduit là encore une fois à travers les personnages, les expressions, les visages, en plus, hein, bien sûr, du contexte et de la lumière. Et à droite, c'est vraiment tout à fait fantastique. Hein. Alors le tableau est plus petit, hein, à droite, hein, il est sensiblement plus petit, enfin quand même. Bon, et donc, on arrive maintenant à donc ce site qui est un site madrilène. Hein, donc, quand on parle de Madrid du temps de Goya, alors il faut effectivement mettre en place certains lieux, certaines architectures. Et donc, bien sûr, on évoque aussitôt la Quinta de Goya, la Quinta del Sordo, la Maison du Sourd, dont vous avez ici une photographie qui date de 1900, et toutes les références qui vont avec. Alors, la Quinta del Sordo, c'est une maison de campagne, sur les bords du Manzanares, que Goya venait d'acheter en février 1819. Et c'est dans cette maison qu'il passe sa convalescence. Vous avez vu le tableau tout à l'heure, il était édifiant. Donc Goya malade, qui était soigné par son ami le médecin. Mais c'est là, dans cette maison, qu'il passe sa convalescence après cette grave maladie. Et ce que l'on appelle peinture noire, c'est un ensemble de 14 scènes que Goya a peintes sur les murs de cette maison. On pense qu'il exécute cette série de peintures tout de suite après son rétablissement. Il est rétabli en 1820 et donc il se met à peindre les murs de sa maison. À partir de 1823, Goya se cache. Il se cache par crainte de représailles du nouveau pouvoir absolutiste de Ferdinand VII, j'en parlais tout à l'heure. Puis il reçoit en 1824 l'autorisation de partir pour la France, mais ça c'est quelque chose, enfin, c'est une partie de sa vie qui ne nous intéresse pas, on s'attache à Madrid. Et justement on va préciser que avant son départ, avant le départ de Goya pour la France, enfin pour Bordeaux c'est préféré, donc avant son départ, Goya donne sa maison, la Maison du Sourd, à son petit-fils qui s'appelle Mariano. Et en 1859, Mariano Goya vend la propriété qui revient un peu plus tard au baron d'Erlanger. Erlanger est celui qui va prendre la décision de faire transposer les peintures murales sur toile. Car si vous connaissez ce cycle de peintures noires, vous savez qu'elles sont exposées au Prado et que ce sont des peintures sur toile. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce sont des peintures murales transposées sur toile. Quand Erlanger, nouveau propriétaire de la maison, fait cela, c'est à des fins finalement de faire connaître Goya et peut-être aussi d'avoir un peu plus d'argent. Son ambition est de faire figurer ses peintures noires à l'exposition universelle de Paris de 1878. Il espère bien obtenir le succès parce que c'est la peinture de Goya. En fait, pas du tout, c'est un échec, mais ça se comprend quand on connaît effectivement l'horreur de ses peintures noire de Goya. Et donc Erlanger a l'idée absolument remarquable de donner ces peintures qui n'ont pas eu de succès à l'exposition universelle de Paris, il les donne au Prado en 1881. Il a financé le transfert sur toile et les donne finalement au Prado. Je vous donne une petite idée de la disposition. Donc là vous êtes projeté dans la maison. Dans la Maison du Sourd, on compte 14 peintures noires, 14 peintures qui traduisent un monde clos, un monde hideux. Les peintures noires représentent des foules hystériques. C'est le cas, par exemple, je vais vous la montrer, du pèlerinage de San Isidro, qui se trouve sur ce mur-là. Ou alors, ce sont des réunions de sorcellerie, le sabbat. Le sabbat, c'est juste en face, sur le mur en face, le sabbat. Le lieu des assemblées sataniques. Ou alors ce sont des images d'avilissement sénile. Par exemple, il y a deux vieux qui mangent leur soupe. Ou des scènes érotiques, par exemple, deux jeunes femmes qui se moquent d'un homme. Bon, mais j'ai retenu donc les plus frappantes, c'est-à-dire parmi ces peintures noires, le pèlerinage de San Isidro. Marquez la date, c'est entre 1820 et 23. En 23, il a peur, Goya, et il décide de partir. Ce sont des compositions gigantesques. Il ne faut pas oublier qu'il sortait d'une maladie qui avait failli l'emporter, qu'il était convalescent. La scène est effectivement épouvantable. On se rapproche de ce groupe donc de pèlerins fanatiques qui n'est plus du tout humain, si vous voulez. On peut se rapprocher et voir effectivement à quel point maintenant il en est arrivé à une déformation systématique des personnages qu'il peint, surtout effectivement ceux qui ont basculé dans un fanatisme total ou une superstition, des croyances qui sont irrationnelles, que dénonce Goya. Hein, Goya les dénonce, bien sûr, ces croyances irrationnelles, ces superstitions. Prenons le musicien qui les entraîne tous, voyez plutôt. C'est tout le sens hein, que vous donnez à la fameuse gravure de Goya, le songe de la raison produit des monstres. Hein. Le songe de la raison produit des monstres, c'est une gravure, une image hautement éclairée de Goya. Hein. Ça traduit les lumières. Hein. Et en face de cette composition, le sabbat, ou le grand bouc, aussi on dit. Hein. Voilà, on a basculé dans les croyances les plus irrationnelles qui soient, c'est-à-dire la croyance au diable. Tout simplement, qui se manifeste ici. Et bien sûr, inutile de préciser que dans ce cas, les visages de ceux qui y croient ne sont même plus humains. Donc, en se rapprochant, on s'aperçoit que ce sont des masques, ce sont des visages simiesques, ce sont des visages déformés, des visages hideux, des visages qui ne sont plus humains parce qu'ils ont basculé dans dans des croyances, dans des superstitions qui sont bien sûr avilissantes pour ceux qui sont comme Goya, issus des Lumières. Hein. Goya, c'est un homme des Lumières, c'est un homme éclairé. Hein. Faut pas se méprendre hein, sur ce type de peinture. Hein. Parfois, on dit Goya était fou. Et non, pas du tout. Le contexte dans lequel il a vécu, les événements qu'il a vécu, conduisent à la folie. Mais Goya n'a jamais été fou, jamais. C'est un homme éclairé, c'est un homme des Lumières, qui dénonce, hein. Il dénonce tout simplement. Hein. Donc il dénonce ici les croyances en, par exemple, Asmodée, démon de la Bible, surintendant des enfers, surintendant des maisons de jeu, Asmodée qui sème la dissipation et la terreur. Et effectivement, c'est ce que l'on voit ici, la conséquence. Hein. Il dénonce aussi, dans ses peintures noires, je vous le disais, l'avilissement, c'est-à-dire effectivement ici, il n'y a rien de plus bête que deux hommes qui se battent à coups de gourdin sans même savoir pourquoi. Mais ils se tapent dessus. Ah, c'est étonnant, hein, ces peintures, hein, tout à fait étonnant. Et la plus étonnante, bien sûr, de toutes, c'est celle-ci. Et là, je pense qu'on peut dire qu'avec ce Saturne dévorant ses enfants, la vigueur abrupte, simplificatrice de la touche. Maintenant, il travaille au couteau à palette, c'est-à-dire qu'il va écraser avec le couteau la pâte pour créer des effets qui sont ceux que vous avez sous les yeux. Et donc, la vigueur abrupte et simplificatrice de la touche annonce clairement l'expressionnisme. Il y aura au XXe siècle un grand courant pictural expressionniste qui est amorcé par les Allemands du groupe Die Brücke. Et ça va se développer, prendre beaucoup d'importance. Et alors, à ce moment, bien sûr, Goya est considéré comme un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture. Imaginez qu'on a commencé quand même par des cartons de tapisserie lyrique, baroque, rococo, et qu'on arrive effectivement à ce type de peinture. Mais ce n'est pas la fin pour Goya. Hein. Donc ensuite, il y a une production picturale que vous connaissez, bordelaise, disons, que je n'ai pas présentée, que vous connaissez tous vraisemblablement. Voilà. Alors, donc on en termine là pour Goya. C'est effectivement la peinture de Goya par rapport à Madrid, par rapport à ce contexte, et surtout un contexte historique délétère, tout à fait terrible, dont il a été le témoin. Un témoin sans concession. Voilà, alors on conclura donc ce programme la semaine prochaine avec Lisbonne. Et Lisbonne nous permettra de faire une synthèse finalement de ce parcours chronologique que je vous ai proposé cette année, mais bon, qui sera effectivement la présentation de la ville de Lisbonne. Ça sera la semaine prochaine.